Alors, il est évidemment très difficile dans l'espace d'une demi-heure de comprimer d'une façon cohérente un ensemble d'idées sur la sexualité, sujet évidemment fort discuté. Alors je pense qu'il faut séparer peut-être entre au moins deux choses, la conception même de la sexualité, c'est-à-dire la conception du rôle de la sexualité dans la vie humaine, et ensuite la moralité de la sexualité. Je n'aimerais pas confondre ces deux choses, parce que comme nous allons voir, la différence, il peut y avoir une moralité qui se ressemble, mais qui sont basées sur des conceptions très différentes de la sexualité. La première distinction que je pense qu'il convient de faire, c'est la question à savoir, est-ce que l'homme, c'est-à-dire la nature humaine, a en elle-même des mauvaises parties. C'est la notion de péché originel, par exemple, qui a été véhiculée par l'Église chrétienne pendant 2000 ans. C'était originé par saint Augustin, mais c'était adopté par l'Église catholique comme leur théologie officielle. Il y a d'autres regroupements aussi qui ont démonisé, si vous voulez, la sexualité d'une façon ou l'autre. Parce que le raisonnement est un peu le suivant, que le corps de l'homme est animal, l'esprit de l'homme est divin. Ce qui devient en l'homme, c'est tout ce qui transcende les besoins corporels. Puisque la sexualité fait partie de son héritage corporel, puisque c'est ce qu'il partage avec l'animal, alors la sexualité fait partie de la soi-disant basse nature de l'homme, n'est-ce pas? C'est une conception assez générale. Autrement dit, pour raffiner un peu le raisonnement, ce qui l'homme se rapproche à Dieu par ce qu'il a qui le différencie de l'animal. Okay? C'est-à-dire l'homme est différent de l'animal. Alors, ce qui est proprement spirituel dans l'homme, c'est ce qu'il a que l'animal n'a pas. Et puisqu'il partage la sexualité avec l'animal, alors la sexualité fait partie de la basse nature de l'homme et donc d'autres choses comme la capacité intellectuelle, etc., de l'homme qui le distingue de l'animal, le rapproche plus de Dieu. On parle parfois de la raison versus des passions, n'est-ce pas? En fait, c'est Socrate, par exemple, qui a tenu ce langage-là, que la raison était la plus grande expression de l'homme. Et il a opposé, si vous voulez, mis en opposition les passions, dont la sexualité, comme faisant partie de la basse nature de l'homme. Et l'Église chrétienne, enfin, juste pour mettre tout ensemble, a carrément démonisé l'acte sexuel même. Il a les écrits des pères de l'Église qui disent que l'acte sexuel lui-même est impropre, même dans le mariage, que le seul but c'est la reproduction de l'espèce, donc il faut que ça se passe avec le moins d'agrément possible, c'est-à-dire il faut coupabiliser au maximum la chose pour que les gens ne puissent pas vraiment jouir de la chose, ok? On reconnaît que c'est la manière que Dieu a fait pour propager l'espèce humaine, mais c'est une concession qu'on fait à Dieu et que autrement on culpabilise au maximum l'acte sexuel en lui-même. Enfin, vous êtes tous au courant, vous avez tous sans doute rencontré ce genre de pensée de la sexualité, qui démonise la sexualité. Alors, donc, je veux d'abord dire que la foi bahaï ou l'approche bahaï à la question s'oppose à toutes ces conceptions. Comme c'est dit dans la citation que Judith a lue tout à l'heure, tout ce qui vient de Dieu est bon. Tout ce qui fait partie de la nature humaine, telle qu'elle est créée par Dieu, est bon. Et tout a un but sacré, un but spirituel. Donc la sexualité a un but spirituel, et c'est un don de Dieu. Ce n'est pas une malédiction, ça ne fait pas partie de la basse nature de l'homme, etc., etc. Donc, ça c'est la première chose très importante, parce que ça c'est, si vous voulez, la toile de fond contre laquelle toutes les autres idées sont dressées. Okay? Donc je répète ça juste pour boucler cette notion. La foi baha'i considère que la sexualité, comme toute autre chose d'ailleurs, comme toute autre capacité naturelle de l'homme, est bon, vient de Dieu et a un but spirituel. Donc nous récusons toute notion de péché originel ou la notion que l'homme a une bonne partie et une mauvaise partie en lui. Alors j'aimerais juste lire un texte qui confirme ce point de vue. La foi baha'i reconnaît l'importance de la pulsion sexuelle, mais condamne ses expressions illégitimes. Je voulais juste sentir. L'expression convenable de l'instinct sexuel est un droit naturel pour chaque individu. Et c'est précisément pour cela que l'institution du mariage a été établie. Les Baha'is ne croient pas que la pulsion sexuelle doit être réprimée, mais réglée et contrôlée. Alors ça c'est, je pense, très clair. La foi baha'i reconnaît l'importance de la pulsion sexuelle et que l'exercice ou l'expression convenable de l'instinct sexuel est un droit naturel de tout le monde. Et c'est dans l'institution de mariage que Dieu a prévu l'expression de cet instinct sexuel. Et les Baha'is ne croient pas que la pulsion sexuelle doit être réprimée ou, comme diraient les freudiennes, refoulée, mais réglée et contrôlée. Alors, remarquez d'abord une chose ici. On pourrait dire la même chose pour n'importe quel don de l'être humain. C'est-à-dire, les Baha'is ne croient pas que l'intelligence de l'homme doit être réprimée, mais contrôlée et réglée, n'est-ce pas? Les nazis ont utilisé leur cerveau pour mettre 6 millions de juifs à mort, n'est-ce pas? Ça, c'est une expression de l'intelligence humaine. Un animal ne peut pas faire ça. Il ne peut pas organiser tout un massacre de 6 millions de personnes. Les animaux, tout un à un. Donc, tout don de Dieu peut être bien utilisé ou mal utilisé. Je peux dire la même chose. La foi baha'i reconnaît, ne croit pas que l'instinct de colère doit être réprimé, mais réglé et contrôlé. Parce que, comme Abu Bahá dit, il faut que notre colère soit dirigée vers les injustices. Donc la colère est un don de Dieu qui a une expression légitime. La personne qui peut voir un innocent abusé ou quelque chose et qui n'a pas de colère est une personne moralement amortie, n'est-ce pas? Donc, ce qui est dit à propos de la sexualité ici, c'est simplement, ça revient à dire que la sexualité participe dans un principe qui est universel, c'est-à-dire que tout ce qui vient de Dieu est bon, mais doit être bien utilisé pour favoriser le développement de l'être humain. Et bien utilisé, ça sous-entend bien entendu que l'homme a un libre arbitre, que l'homme a une liberté, parce que si on était simplement programmé par instinct comme les animaux d'agir d'une certaine façon, on ne serait pas responsable qu'on agisse de façon qu'on appelle bien ou mal. Ça ne change rien. Si on n'est pas responsable, la moralité n'y intervient pas. Donc, la moralité a un sens seulement par rapport à la notion de liberté. Vous ôtez la notion de liberté, vous n'avez plus de responsabilité. C'est-à-dire, un tigre qui tue et mange un autre animal parce qu'il a faim, on ne dit pas que c'est mal, c'est simplement le tigre, ça c'est la nature du tigre, c'est ni bien ni mal, le tigre n'a pas d'autre choix. Mais si un homme tue et mange un autre homme, par exemple, le cannibalisme, nous disons que c'est mauvais, pourquoi? Parce que nous savons que l'homme est capable de faire autre chose que ça, que l'homme est capable d'agir autrement. Donc c'est par rapport à la liberté et la capacité de diriger nos capacités vers certains buts, que la question de mauvais usage versus le bon usage se pose. Maintenant, donc ça c'est le premier principe. Tout ce qui vient de Dieu est bon, mais doit être bien utilisé, et peut être mal utilisé. Donc, encore une fois, ça c'est vrai de la sexualité, mais c'est vrai de toute autre chose, n'est-ce pas? L'intelligence, la force physique, tout ce que vous voulez. Maintenant, j'ai eu un blanc de mémoire à ce que je voulais dire par la suite. Il faut que je récupère mes idées. Je parlais de, rappelez-moi, de...
Résumé.
Quand?
Tu résumais ta
c'est ça, mais c'était la dernière idée, c'était quoi?
De l'usage
de la... Ah oui, qui peut être bien ou mal, ok. Alors, il y a un troisième principe. Il y a un troisième principe... Et ça, c'est le principe que plus que le potentiel, plus que le don est fort, disons, plus que le don naturel est fort, plus il a un potentiel du bien, quand c'est bien utilisé, et plus il a un potentiel de mal si quand c'est mal utilisé. Ça, c'est un troisième principe. Et encore une fois, ça, c'est vrai de tous les dons, n'est-ce pas? Donc, un don... une capacité chez l'homme qui n'a pas beaucoup d'importance, qui n'a pas beaucoup de force, ça ne sert pas à grand-chose, ça ne nuit pas à grand-chose, n'est-ce pas? Que vous ayez des cheveux blancs ou bruns, par exemple, etc., ce sont des caractéristiques, c'est un don de Dieu, c'est un don que vous avez, mais ce don n'a pas beaucoup d'importance d'une façon ou l'autre, n'est-ce pas? Ça n'a pas un très grand potentiel du bien, ni un très grand potentiel du mal, n'est-ce pas? Alors, donc ça c'est le troisième principe. Plus que la force ou le don est fort, plus que son potentiel du bien est grand, et plus aussi que son potentiel du mal est grand. Prenant l'intelligence humaine, qui est une force très forte, ça a un très grand potentiel du bien, regardant que maintenant, par la science, nous avons guéri toutes sortes de maladies qui ont affligé l'humanité pendant des millénaires, n'est-ce pas? Mais nous avons utilisé cette même puissance pour construire des bombes atomiques, pour tuer enfin des milliers de gens. D'ailleurs, le 20e siècle a été nommé le siècle de méga-mort. Il y a plus d'êtres humains tués par d'autres êtres humains au 20e siècle que dans tout le reste de l'histoire. Depuis le début, la nuit des temps qu'on connaît jusqu'à la fin du 19e siècle, il y a moins d'êtres humains tués par d'autres êtres humains, dans toutes les guerres entre l'Angleterre, la France, l'Allemagne et tout ça, Genghis Khan, tout ça. Il a eu plus de gens tués par d'autres êtres humains dans le seul 20e siècle que dans tout le reste de l'histoire ensemble. Nous avons acquis, si vous voulez, une certaine expertise dans cela aussi, n'est-ce pas? Nous avons trouvé des méthodes encore plus efficaces pour s'entretuer. Alors, ça, en gros, c'est simplement pour illustrer le fait que l'intelligence humaine, que je pense personne ne contesterait que l'intelligence humaine est un don de Dieu et que quand c'est utilisé pour le bien, mais c'est formidable, mais ce même don peut être utilisé pour le mal et quand c'est utilisé pour le mal, ça peut faire très mal. Maintenant, je viens donc au spécifique de la sexualité. Nous avons établi donc trois grands principes qui sont vrais de tous les dons naturels, mais je veux parler en particulier de la sexualité. Donc la sexualité est un don de Dieu. C'est une des plus puissantes, sinon la plus puissante don de Dieu. Pensez simplement à la chose suivante. Votre cerveau engendre des idées, mais votre capacité sexuelle engendre une haute vie humaine. Alors, il n'y a guère de choses plus puissantes que cela. Donc, les organes sexuels, enfin, sont sans doute les plus puissantes que nous avons, parce que ça permet d'engendrer la vie humaine. Même le cerveau ne permet pas ça. Ça permet d'engendrer des idées, des émotions, si vous voulez, mais pas des autres vies humaines. Donc la sexualité est une très très forte don. Maintenant, une deuxième chose, c'est que la puissance sexuelle en elle-même, c'est-à-dire, on voit que le déploiement de la sexualité est très puissant parce que ça peut créer un autre être humain. Mais nous savons tous que la pulsion sexuelle est aussi la plus forte pulsion, enfin certainement la jouissance sexuelle est sans doute la plus grande jouissance physique que nous connaissons. Enfin, on sait, tout le monde sait cela. Donc, la jouissance sexuelle est une attraction extrêmement forte et la pulsion sexuelle est très très forte, comme nous savons. Donc, Dieu nous a dotés d'une sexualité et d'une sexualité très puissante. Non seulement du point de vue de reproduction, mais du point de vue psychologique, émotionnel, etc. C'est-à-dire, on ne peut pas contourner le fait que la sexualité joue un très, très grand rôle dans la vie humaine et pas seulement dans la reproduction des enfants. Pensez par exemple simplement à la chose suivante. Vous ôtez le thème de la sexualité, de la littérature et la musique humaine, il ne vous restera pas grand-chose, n'est-ce pas? Il ne vous restera vraiment pas grand-chose. Alors, la pulsion sexuelle est une pulsion créatrice. Ça, nous savons très bien. Que sexualité est liée à la création, et donc en quelque sorte on peut même voir que la création de l'autre vie, la reproduction, n'est qu'un métaphore pour la créativité plus générale de la pulsion sexuelle. Et là je ne veux pas entrer dans un tas de données scientifiques, mais on sait par exemple que même quand les gens pensent, on a fait d'études qu'il y a certaines des hormones sexuelles qui sont sécrétées par les organes sexuels qui ont pour cible, vous savez, les hormones qui circulent dans le sang, ils ont ce qu'on appelle des cibles, ils ont des sites récepteurs dans une hormone sécrétée dans une partie du corps pour avoir comme cible une toute autre partie du corps. La proximité dans le corps n'a rien à voir avec la fonction. Et ça, c'est connu depuis longtemps, que certaines des hormones sexuelles, donc et pour le mâle et pour le femelle, ont comme cible ou comme site récepteur certaines parties du cerveau. Alors, il est littéralement vrai que nous pensons aussi avec notre puissance sexuelle. Donc, la sexualité est liée à tout ce qu'on fait. Ça, c'est évident. Alors, si on se réfère donc au principe que j'ai cité tout à l'heure, étant donné que la sexualité humaine est d'une telle force, d'une telle importance, d'une telle implication dans toute la vie humaine, ça veut dire que la sexualité a un très grand potentiel du bien quand c'est bien utilisé et un très grand potentiel du mal quand c'est mal utilisé. Et je pense qu'on n'a que de faire une référence assez, assez vite. Nous savons tous maintenant, ça vient à jour de plus en plus, les mauvais usages de l'instinct sexuel, toute l'histoire d'abus des enfants qui ne semble pas cesser. Il y a des nouvelles histoires tous les jours, l'inceste, l'abus sexuel des enfants, etc., etc. Et nous savons, enfin sans entrer dans les détails, que de point de vue sexuel, si une personne se laisse aller vraiment, elle peut tomber extrêmement basse, il peut vraiment perdre son humanité complètement, n'est-ce pas? Une personne qui devient par exemple un prédateur sexuel, il peut se servir des autres, des enfants, même des bébés. Ok? Ça c'est venu à jour dernièrement. Que dans, en Afrique du Sud, les hommes qui sont sidéens se sont convaincus qu'ils peuvent se guérir du sida en violant des bébés. Écoutez, je n'invente pas. Des bébés de 5 mois qui sont violés par ces hommes-là. Alors, quand j'ai raconté ça l'autre soir à quelqu'un, il a dit, ah oui, mais les Africains sont un peu superstitieux et tout ça, alors ils ne comprennent pas vraiment le mécanisme du sida et tout ça, donc ils pensent peut-être sincèrement, naïvement ça. Je dis, mais c'est pas ça la question. Quelle perte de l'humanité, supposons que c'était vrai, supposons que c'était vrai que je pourrais me guérir du sida en violant un enfant de 5 ans, que je m'approprie un autre... 5 mois, oui. Qu'on s'approprie, qu'on détruit une autre vie humaine pour me guérir, moi, d'une maladie, quelle perte de l'humanité, n'est-ce pas? Donc, peu importe s'ils y croient sincèrement, je m'en fous, ce sont des monstres. Ce sont des monstres. Pas parce qu'ils sont noirs, pas parce qu'ils sont des Africains, ce sont des monstres parce qu'ils utilisent des êtres humains pour servir leur propre fin. Ah ben, ça c'est juste un exemple, nous avons plein d'exemples dans notre société, comme nous savons, et je me passe d'en citer enfin, toute une liste de choses. Donc les prédateurs sexuels, les gens qui se laissent aller à la recherche sans borne de la gratification sexuelle, peuvent tomber dans un abîme qui ne semble pas avoir du fond. C'est-à-dire, chaque fois qu'on pense avoir atteint le fond de l'abîme, on trouve que quelqu'un d'autre, avec sa créativité, a trouvé encore une autre chose à faire. Par exemple, je vous donne juste un autre exemple. En Géorgie, qui est l'État aux États-Unis où j'ai grandi, près d'Atlanta, ils ont découvert, ça c'était l'année passée, j'ai vu ça à la télévision quand j'étais en visite aux États-Unis. Tout d'un coup, dans une petite ville, quarantaine de miles d'Atlanta, Cantonville, Georgia, tout d'un coup, il y avait une vague de maladies sexuelles chez les jeunes, chez les jeunes ados. Et puis, tout d'un coup, ben, c'était vraiment une explosion. Alors, je vous épargne toute l'histoire, mais il semble que c'était des ados qui avaient formé un club de sexe. Il se réunissait chez... il avait un type qui avait des parents très riches, qui était toujours en voyage aux Caraïbes ou je ne sais pas quoi. Et ce type, le jeune garçon, avait donc une grande maison avec tout ce que vous voulez dedans. Alors, il se rassemblait, regardait le canal Playboy, n'est-ce pas, qui, si vous ne savez pas, montre enfin tout acte sexuel très explicitement, n'est-ce pas, dans tous les détails, même avec les laparoscopes, si vous voulez. Et puis, donc, ils regardaient ça, les ados, ils disent, ah ben, on peut faire aussi bien qu'eux, n'est-ce pas. Alors, ils commençaient simplement à imiter ces actes et tout ça. Et puis, finalement, en fait, il s'est passé toutes sortes de choses vraiment invraisemblables, enfin, qui sont droits de marquer de ça, etc. Donc, nous savons que la pulsion sexuelle est très forte. Nous savons que son utilisation inappropriée peut conduire à la perte de l'humanité de l'individu qui le fait. Et nous savons aussi que la sexualité peut être une des plus fortes liens entre le couple marié, qui est la base de la famille et tout ça, que ça peut conférer énormément de beauté et de bonheur quand c'est exercé de façon appropriée. Alors, qu'est-ce que c'est cette façon appropriée? Alors, sur le comportement moral, je ne dis pas encore une fois la base, mais sur le comportement moral, la foi bahaï rejoint essentiellement l'enseignement de toutes les autres grandes religions. C'est-à-dire, de toutes les choses, et ça c'est assez intéressant, et on pourrait même parler uniquement de ça, de tous les aspects de la vie, la moralité sexuelle telle qu'elle est enseignée par les grandes religions est presque inchangée depuis 4000 ans, n'est-ce pas? D'ailleurs, Moïse, dans les 10 commandements, a défendu l'adultère, par exemple. Et Baha'u'llah, dans le Kitab Yaqdas, a défendu l'adultère. D'ailleurs, il y a un passage dans le Kitab Yaqdas, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est le livre de loi de Baha'u'llah, il dit, nous vous avons défendu l'assassinat, enfin le meurtre, l'adultère, le commérage et la calomnie. Alors, de ces 4 interdictions, 3 se trouvent déjà dans les 10 commandements qui sont vieilles de 3000 ans. C'est pas... ok? C'est-à-dire l'adultère, le meurtre et la calomnie. Seul le commérage est nouveau dans la foi mariée. Donc, le même dans l'islam, dans le bouddhisme, etc. Donc, toutes les religions, tous les prophètes religieux, disons, tous les prophètes religieux, tous les fondateurs des grandes religions ont enseigné la moralité sexuelle presque identique. Il n'y a vraiment pas de quoi séparer les uns des autres. Quant au comportement, j'insiste sur le comportement, c'est-à-dire il faut la fidélité dans le mariage et il faut la chasteté avant le mariage. C'est-à-dire que la seule expression légitime de l'instinct sexuel, c'est entre un homme et une femme mariée. Donc ça, c'est la moralité qui était l'Église catholique ou la foi chrétienne, c'était la moralité judaïque, comme je viens de dire, les 10 commandements, c'est la moralité dans l'islam, c'est la moralité dans la foi bahaïe. Donc, la moralité sexuelle n'a pas changé depuis 5000 ans. Ça n'est vraiment tel qu'enseigné par les grands. Et la moralité sur d'autres choses a changé, par exemple... Par exemple, Moïse a décrété la peine de mort pour toutes sortes de choses. Enfin, il a décrété la peine de mort pour le viol du sabbat, pour la désobéissance. Un enfant qui a 12 ans ou plus, qui refuse d'obéir à ses parents pour être lapidé à mort. Enfin, je ne sais pas si jamais ça a été appliqué. Mais en fait, il décrétait la peine de mort pour toutes sortes de choses. L'islam, par exemple, a décrété qu'on coupe la main d'un voleur, etc., etc. Enfin, c'est des punitions très fortes et tout ça. Et par exemple, Baha'u'llah a complètement rejeté toutes ces choses-là, en fait. Et même Abdu'l-Bahá, dans certains passages, dit que ces lois rigides et tout ça ne sont plus applicables. Mais la moralité sexuelle, comme j'ai dit, est étonnamment constante. Alors, j'aimerais juste vous montrer combien c'est facile de démontrer pourquoi ça c'est le cas. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de grandes justifications. Alors, on va commencer en reculant, c'est-à-dire, on commence d'abord avec la chose suivante. Est-ce qu'on est d'accord qu'un couple marié devrait être fidèle l'un envers l'autre? À peu près tout le monde, même les gens qui ne sont pas fidèles à leur mari, tout le monde est d'accord que l'institution de mariage est plus forte si les partenaires sont fidèles, n'est-ce pas? Je ne connais même pas une personne qui ne serait pas d'accord avec ça. Même les personnes qui disent, oui, j'ai eu des aventures, etc. Mais je reconnais que le mariage est plus fort quand les époux sont fidèles les uns envers l'autre. Nous savons que la jalousie sexuelle, on a tourné ça de 24 façons différentes. Les sexologues, les psychologues et tout ça ont parlé, mais voilà, il faut apprendre à surmonter la jalousie sexuelle, mais personne ne le fait. Personne ne le fait. C'est-à-dire la jalousie sexuelle est très très forte. Et il n'y a rien, donc, qui brime le lien d'amour spirituel, aussi spirituel que vous voulez, ok? Mais l'infidélité dans le mariage, c'est la première cause, ça a toujours été, depuis 5000 ans, la première cause de divorce ou d'éloignement entre couples, et ça l'est toujours aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils ont même fait des sondages, et puis fatalement, les gens disent oui, en fait. La chose qui me ferait, ce n'est pas la seule raison pour le divorce ou pour l'éloignement, mais l'infidélité est presque toujours impliquée dans les divorces d'une façon ou l'autre. Alors, donc, si nous prenons comme simplement le gros bon sens, que l'institution de mariage est importante, que ça doit être stable, parce que c'est la base de la famille qui est la base de la race humaine, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la famille est le moule qui forme chaque génération. Chaque génération ne peut pas être meilleure que les familles qui ont formé cette génération, n'est-ce pas? Nous avons eu 6000 d'histoires avant nous, mais toute cette histoire s'est à jeter dans la poubelle. Si vous avez eu des parents abusifs ou alcooliques, ou etc., n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est la famille d'aujourd'hui qui forme la génération de demain. Ce n'est pas les parents d'il y a 100 ou 200 ans ou 3000 ans, n'est-ce pas? Enfin, c'est pas ça. C'est les parents d'aujourd'hui. Donc, la famille est la base, est la moule même d'où sort la société. La famille est la moule qui fabrique la société. Et la base de la famille, c'est l'amour entre le couple, et nous sommes tous d'accord par le gros bon sens que la fidélité sexuelle favorise la stabilité du mariage. Alors, on dit, bon, ok, prenons cela pour acquis. On accepte ça. Ça veut dire que l'adultère, c'est-à-dire l'infidélité dans le mariage, est à écarter. Mais quoi dire de la chasteté avant le mariage? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire, mais voilà, si vous êtes vraiment des bons amis, n'est-ce pas, ou si vous contemplez le mariage, pourquoi vous ne pouvez pas vivre ensemble, etc., pourquoi on ne peut pas expérimenter un petit peu avant le mariage? Alors, supposons que Barola avait dit ça. Cependant, il m'a dit, à ce moment-là, vous pouvez avoir autant de partenaires que vous voulez, ou jusqu'à 3 ou 4 partenaires avant le mariage, mais une fois que vous êtes marié, c'est la fidélité dans le mariage. Alors, posons-nous maintenant la question. Si ça, c'était la loi, combien de personnes se marieraient? C'est-à-dire, le fait, à ce moment-là, le fait de vous marier, serait le fait de vous limiter la liberté sexuelle. Autrement dit, une telle loi forcerait même la promiscuité sexuelle. OK? Parce que les gens... Pourquoi on peut dire, mais voilà, si on se marie, on est obligé à être fidèle l'un envers l'autre. On peut être fidèle l'un envers l'autre sans se marier, mais il y a toujours la possibilité que si on veut une petite aventure, on peut le faire, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait loisible. Donc, vous voyez, la fidélité dans le mariage exige la chasteté devant le mariage, parce que sans cette prescription, la fidélité dans le mariage n'a plus de sens. Les gens simplement ne se marient pas. Et nous voyons aujourd'hui, dans notre société, que les gens, effectivement, ne se marient plus. OK? Ils ne se marient plus parce que ce n'est plus dans les mœurs que on a besoin de se marier pour avoir des relations sexuelles ou même avoir une famille, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est la loi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. La moralité bahaï sur cette question, c'est la fidélité dans le mariage et... la chasteté avant le mariage. Maintenant, j'ai encore 2 choses à dire et puis je pense que j'aurai fini. Donc, qu'on l'aime ou non, qu'on le veuille ou non, simplement la logique et le gros bon sens nous mènent droit à la moralité bahaï sur cette question. Et qui est la moralité millénaire, comme j'ai dit. Fidélité dans le mariage, chasteté avant le mariage. Il subsiste quand même des questions. Si nous sommes appelés à contrôler et régler, comme dit Shoghi Effendi, la pulsion sexuelle, ce qui implique l'abstention devant le mariage, avant le mariage, et même dans le mariage, comme les couples mariés peuvent en témoigner, il y a quand même une certaine discipline, c'est-à-dire que même le fait d'être marié ne veut pas dire que vous pouvez donner absolument libre cours à vos pulsions sexuelles. Il y a des moments quand les rapports sexuels ne sont pas possibles, etc., etc. Donc, tournez ça comme vous voulez, chaque personne, que ce soit homme ou femme, vivra par la force d'être un être humain la tension de restreindre ou diriger sa sexualité. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va échapper à ça. Il n'y a pas une seule personne qui vivra sur la terre qui ne serait pas confrontée de ce qu'on appelle, je veux éviter ce mot, mais des frustrations sexuelles, c'est-à-dire la tension entre la pulsion sexuelle et la moralité qu'on veut suivre. Donc. Alors on peut se demander, pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Est-ce que ce n'est pas un peu méchant de Dieu de nous donner une chose qui est une jouissance aussi grande, qui est une pulsion aussi grande, et ainsi de limiter son expression d'une façon aussi catégorique, si vous voulez? Alors, je pense que c'est une question qui doit être posée, qui doit trouver sa réponse. Et c'est dans ce sens-là que la sexualité, la question de la moralité sexuelle, déborde simplement de la question du mariage et tout ça. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la sexualité humaine est impliquée dans tout ce que nous faisons, dans nos pensées, dans nos émotions, etc., etc. Alors, la femme bahaï dit que le but de la vie sur cette terre est le développement spirituel, le progrès spirituel. Donc, notre succès dans la vie, ce n'est pas le fait d'avoir réussi dans les affaires, d'avoir une grande carrière, parce que rien de ça, on ne va apporter dans l'autre monde. La seule chose, dit Shoghi Effendi, que nous allons porter dans l'autre monde, c'est notre état d'âme, l'état d'âme que nous avons atteint au moment de la mort. Parce que la mort est une transformation purement physique, ça c'est bien dit dans les écrits. Donc, la mort, le fait de mourir, n'ajoute rien à l'âme et ça n'ôte rien à l'âme. Autrement dit, exactement comme le bébé qui naît, n'est-ce pas, qui passe du ventre de sa mère dans ce monde, si le processus est sain, il vient dans ce monde exactement dans le temps qu'il a atteint son développement dans la matrice, n'est-ce pas, en fait. S'il est prématuré, s'il atteint un certain niveau de développement, ben, il vient dans ce monde, dans cet état, n'est-ce pas? Le fait de naître ne change pas son état, n'est-ce pas? Le fait de naître, simplement, le transfert d'un monde à l'autre. Alors, Bahá'u'lláh nous explique que sur la mort, c'est exactement la même chose. Que la mort est un processus purement physique, que c'est simplement la naissance de ce monde à l'autre monde, et que ça ne jute rien à l'âme et ça n'ôte rien à l'âme. Donc l'âme passe dans l'autre monde, dans l'état qu'elle a atteint au moment de la mort. Pour le bien ou le mal. Alors, donc, le but de notre existence, c'est le développement spirituel, le développement de nos âmes, de nos capacités d'âme. Et ça implique le développement de nos capacités de volonté, d'intelligence, de cœur, de conscience. Et donc, le but de ce monde, la qualité de ce monde, dit Bahá'u'lláh, c'est la lutte. Alors, on peut donner une simple analogie dans ce sens-là, ok? Si je voulais développer des gros muscles, comment est-ce que je pourrais faire ça de façon la plus efficace? Ça serait en soulevant des poids. Autrement dit, en luttant contre une résistance. Et plus que la résistance est forte, plus vite que je puisse développer mes muscles. Alors, Baha'u'llah a dit que c'est un peu la même chose du point de vue spirituel, que ce monde, avec ses tensions, ses souffrances, constitue une résistance. Et c'est en luttant contre cette résistance que nous nous développons spirituellement. Et ça, c'est le but de ce monde. Vous pouvez aller argumenter avec Dieu là-dessous si vous voulez, mais c'est ce que Baha'u'llah a dit, et il faut dire que les faits vécus que nous vivons tous les jours portent témoignage de cela. Quelle vie n'a pas de souffrance, n'a pas de lutte, n'a pas de tension, n'a pas de déception, n'a pas de souffrance, etc. N'a pas de chagrin. Donc, le but de ce monde, c'est de développer l'âme, développer son âme, par la lutte contre les résistances dans ce monde. Alors, vu de ce point de vue-là, la force de la pulsion sexuelle devient donc une occasion unique du développement spirituel de l'âme. Autrement dit, la personne qui se laisse aller tout simplement à sa pulsion sexuelle, la pire chose qu'il fait, c'est de jeter dans la poubelle la plus grande occasion qu'il a pour son développement spirituel. Tournez ça d'une autre façon. Supposons que la pulsion sexuelle n'était pas si forte que ça. Supposons que c'était un peu comme manger un bon repas ou même pas, enfin, disons. Et peut-être on dirait, mais voilà, parce qu'il faut propager la race humaine, on décrète qu'au moins une fois toutes les années, tout le monde, tous les couples mariés doivent avoir des relations sexuelles pour assurer que la race humaine continue, etc., etc. Mais en fait, ça nous laisse autrement assez indifférent. Bon, pour certains, ça plaît, pour certains, non. Autrement dit, la puissance sexuelle n'est pas très forte. Dans ce cas-là, il n'a aucun mérite au fait de suivre la moralité de chasteté et de fidélité. Si ce n'était pas une tentation forte, il n'aura aucun mérite à le faire, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'aller vous dire, mais ne buvez pas du poison, parce que ça ne vous attire pas, boire du poison, n'est-ce pas? Etc. Donc on n'a pas à nous interdire les choses qui ne sont pas plaisantes. Si la sexualité n'était pas une chose aussi plaisante, eh bien, suivre la moralité sexuelle, ça serait une affaire banale, n'est-ce pas? Comme certaines choses sont banales, n'est-ce pas? Donc, vu de cette façon-là, nous pouvons en quelque sorte embrasser et même chérir ces tensions qui sont inhérentes au contrôle de notre sexualité. C'est-à-dire, nous pouvons comprendre que cet effort est une des occasions les plus importantes, les plus puissantes que Dieu nous a données pour développer nos âmes sous cette vie. Et donc, en ne pas disciplinant notre sexualité, la pire chose qu'on fait à soi-même, c'est de perdre ou de jeter cette occasion à la poubelle. Alors, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, nous pouvons passer à la discussion.
Merci. On peut respecter ces principes dans le contexte contemporain, avec toutes ces pilules, avec tout ça, avec la sexualité qui est dans la publicité, qui est partout.
Il n'y a qu'une seule façon, et ça serait seulement quand les gens sont convaincus que ça vaut la peine. N'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est évident que dans le contexte actuel, la plupart des gens ne vont pas le faire, qu'ils ne le fassent pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Baha'u'llah, si vous lisez très soigneusement les écrits de Baha'u'llah là-dessus. Il dit, si vous voulez jouir de façon positive de votre sexualité, si vous voulez que ça soit une bénédiction dans votre vie et que ça contribue au progrès de votre âme, voilà comment le faire. Si vous ne voulez pas ça, mais ça m'est égal, allez-y. Attrapez toutes les maladies que vous voulez, faites ce que vous voulez. Ça, c'est entre vous et vous-même, n'est-ce pas? Les Baha'is ne vont pas aller faire la moralité aux autres, n'est-ce pas?
Mais tu sais aussi, il y a une autre question. Que peut-être, c'est pas si mauvais de se connaître avant le mariage. Passer quelques années ensemble pour voir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Au lieu de se marier et après divorcer et après faire tout ce qu'il y a.
Ben, c'est-à-dire que ça c'est, c'est un point de vue qui a été souvent articulé. Abdu'l-Baha dit la chose suivante. Il dit, le but de la fréquentation, c'est-à-dire la relation avant le mariage entre deux époux potentiels, le but de la fréquentation, c'est de connaître le caractère de l'autre, le caractère moral de l'autre. Alors, is that for me, by any chance? Oh, okay. Okay. C'est de connaître le caractère de l'autre. Maintenant, pour parler franchement, le sexe, c'est le fun avec tout le monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand les émotions sexuelles, quand la sexualité entre dans une relation, ça rend plus difficile la compréhension du caractère spirituel de l'autre que sans la sexualité, n'est-ce pas? À telle ou telle qualité, qu'il avait réussi à cacher pendant la fréquentation, n'est-ce pas?
Alors, je pense pas que c'est juste ça. C'est parfois les gens viennent ensemble pendant 10, 20 ans et après ils divorcent. Et tu sais, c'est pas nécessairement parce qu'ils connaissaient pas le caractère. Parce que pendant ces 10, 20 ans, ils se développaient différemment.
Ça se peut. Tout ce que je veux dire, c'est que le fait de vivre ensemble sexuellement avant le mariage ne va pas contribuer à la découverte du caractère spirituel l'un et l'autre. C'est tout ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir quel est le but de la fréquentation, n'est-ce pas? Et il y a aussi un autre aspect de la chose. Le mariage est un engagement. Dans la sexualité, dans les relations sexuelles, on se rend très vulnérable. Physiquement, émotionnellement, intellectuellement. On est le plus vulnérable dans des relations intimes, ok? Alors, donc plus que nous sommes vulnérables, plus qu'il faut une sécurité, un havre de sécurité qui rend sécure cette vulnérabilité. Alors, le fait donc que le mariage implique d'abord un engagement et ensuite la vulnérabilité, enfin mutuelle et tout ça, aussi renforcit les liens de mariage, n'est-ce pas? Tandis que si les gens entament des relations sexuelles et s'ils vivent ensemble avant le mariage, à cet niveau, il y a un manque d'engagement les uns envers l'autre. Ils savent qu'ils peuvent quitter du jour au lendemain. J'ai même eu l'occasion, j'ai rencontré un couple qui avait vécu ensemble pendant 15 ans. Ils avaient 3 enfants et on parlait en fait de mariage. Encore une fois, il faut dire à tout le monde, et encore, les Baha'is ne font absolument pas la moralité aux autres. D'ailleurs, on s'en fout ce que vous voulez faire. Allez faire ça avec des chiens, des chats, on s'en fout complètement, ok? Mais je vous dis ce que Baha'u'llah dit là-dessus, ok? Alors, ce couple avait dit, mais voilà, nous sommes mariés. Et nous sommes ensemble depuis 15 ans, on est fidèles l'un à l'autre, et nous avons 3 enfants, nous avons un bon foyer, pourquoi on devrait se marier? Alors j'ai regardé la femme dans les yeux et j'ai dit, au fond, il y a un certain niveau dans votre relation où vous n'êtes pas engagé. Parce que même si vous êtes ensemble depuis 15 ans, même si vous avez 3 enfants, même si vous êtes jusqu'à maintenant fidèle l'un envers l'autre, vous savez quelque part au fond de vous que vous pouvez quitter du jour au lendemain sans avoir les mêmes conséquences que si vous étiez marié. C'est-à-dire, il y a un certain niveau dans lequel vous refusez de vous engager l'un envers l'autre. Et elle a dit, c'est vrai. Oui. Alors, donc voilà donc les raisons. C'est un point de vue qui est articulé, mais il faut à ce moment-là, évidemment, les gens peuvent avoir d'autres buts dans la fréquentation que de découvrir le caractère de l'autre. Je peux avoir comme but dans la fréquentation de trouver un partenaire sexuel avec lequel je peux vivre raisonnablement heureux et qui ne pose pas trop de demandes sur moi, qui ne veut pas des enfants pour que je puisse poursuivre ma carrière et tout ça. Dans le cadre d'un tel but, on pourrait dire que c'est le fait de vivre ensemble serait bien. Mais par rapport au but que donne la foi bahaï de la fréquentation, ce qui est la connaissance de caractère mutuel, la sexualité, le sexe avant le mariage ne contribue pas du tout positivement à la chose.
C'est drôle parce que il y a un livre qui vient de sortir sur la chasteté, là, l'historique de la chasteté. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Parce que tout le monde en parle, tu vois, dans les revues.
Ah bon?
C'est une femme qui a décidé de faire l'historique de la chasteté. Toutes les formes de chasteté imposées, obligées, librement choisies. Puis moi, je ne l'ai pas lu, je voudrais bien l'acheter, ma propre. Pour faire des choix. Mais à la fin, à la toute fin de l'article, il demande à la dame, qui a fait vraiment quelque chose de très scientifique, là, historique, avec des faits, elle ne pose pas de jugement, rien de tout, elle lui demande, elle, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça. Puis elle dit, moi je constate qu'aujourd'hui, il s'opère une quantité phénoménale d'énergie. Dilapidée, là, complètement, via les normes qui ont cours actuellement.
La promiscuité sexuelle,
hein. Il y a une quantité d'énergie fabuleuse qui se perd. C'est comme... en tout cas, c'est ça qu'elle a dit, elle a juste dit ça. Puis, moi, je trouve qu'il y a une grande sagesse là-dedans, parce que... Moi, j'ai vu des personnes autour de moi essayer de vivre la chasteté, puis y arriver d'une certaine façon, avec tout struggle, comme ils disent en anglais. Puis, ce que j'ai vu, c'était que les personnes qui pratiquaient la chasteté se connaissaient mutuellement, à un niveau là, décuplé par rapport à leurs compatriotes qui faisaient pas ça. Moi, j'ai vu ma fille revenir d'un voyage au Honduras là, de 3 semaines, puis retrouver son chum, comme tout le monde. Là, les chums arrivaient pour aller chercher les étudiantes, là, puis ça faisait 3 semaines qu'ils n'avaient pas vu. Là, il y avait plein d'autos, de gros autobus qui arrivaient, puis tout ça. Puis quelques 10 minutes après, dans plusieurs autos, ben là, les gars embrassaient les filles. Puis c'était des grands baisers, puis il y avait beaucoup de passion, puis ils étaient contents de se revoir, puis c'était bien correct, comme on dit, là. Mais ta Marie, avec son amie, elle a parlé toute la nuit pour raconter son voyage. Toutes les émotions qu'elle avait vécues, toutes... puis au bout de 2 ans de fréquentation, elle a dit, on se connaît comme si on était mariés depuis 10-15 ans. C'est incroyable comment on se connaît. Puis même si ça n'a pas débouché sur un mariage, c'est des gens qui revoient encore. Quand ils passent à Québec, ils sont restés amis. Il ne s'est rien brisé, il ne s'est rien détruit là, dans la relation par le fait qu'ils se marient pas. Fait que c'était bâti là, une amitié extrêmement forte, là, fait de connaissances mutuelles et de respect. Fait que c'est sûr que ça aboutit pas toujours dans le mariage. Mais moi, je pense qu'il y a...
En tout cas, gagner un bon ami vaut mieux que d'épouser, d'avoir un mauvais mariage avec un...
Mais... Non, c'est à peu près ça, là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une question d'énergie là-dedans. Oui. On met l'énergie, là, puis ce que la dame a dit, c'était qu'il se gaspille une quantité fabuleuse d'énergie concernant la sexualité, puis moi je suis d'accord qu'il y a du gaspillage d'énergie.
Je peux poser une question.
Oui, s'il vous plaît.
Allez-vous. dans l'enquête ou l'étude qui était faite, est-ce qu'il faisait du moins un rapprochement entre la fidélité? Moi, je me demande là si la fidélité, jusqu'où ça peut aller, la fidélité officielle, comparativement à celle qu'on peut avoir par l'esprit ou pas.
Je peux peut-être juste dire une chose que je pense que vous avez très raison.
Avant que tu parles, je crois que vous posiez votre question à Louis.
Non, s'il l'avait fait, c'est sûr.
Oui, mais je me suis dit
que je ne sais pas si on en parle. Mais moi, ce que je pense, c'est que. Je ne sais pas. Mettons que je vis avec un conjoint, puis que tout à coup, lui a des désirs pour d'autres personnes, puis des. Il doit vraiment lutter, comme disait Bill, là, contre des pulsions qui l'ébranlent. C'est vraiment une lutte là, qu'il va faire pour ne pas se laisser aller là-dedans, pour ne pas se détourner de sa femme, pour ne pas investir dans cette autre relation-là, en temps, en énergie et tout ça. Si elle apprend qu'il y a eu ça, puis qu'il a vraiment pensé beaucoup à cette femme-là, mais qu'il a essayé de faire des choix, puis dire finalement, ben non, écoute, je perds mon temps, je veux être avec ma femme, je veux pas la perdre. Elle va avoir beaucoup de moins de peine que s'il a passé à l'acte, d'après moi, là. C'est la seule chose que je peux répondre à ça, là.
Mais passer à l'acte, est-ce qu'il n'y a pas différentes façons de passer à l'acte? Il peut aller se masturber dans la salle de toilette, comme il peut bien aussi bien dire, écoute, je chasse ça de mon esprit, c'est un combat, comme on disait, c'est une résistance, un combat de cette résistance. Ça peut être... chaque personne, il me semble, devrait se poser cette question-là, lui-même, en fait, est-ce que je suis fidèle ou pas.
Mais je pense que... je pense que ça soulève la question très importante que dans toute moralité... La moralité, c'est jamais noir et blanc. Parce qu'il y a l'acte, il y a aussi la motivation qui est derrière l'acte. Et la foi Baha'u'llah est très clair là-dessus qu'un acte en lui-même ne peut pas être jugé bien ou mal en l'absence de la motivation. Et donc, il y a une hiérarchie de motivation, il y a une hiérarchie de moralité. Alors, je suis d'accord avec Louise que le fait, comme vous dites, de ne pas passer à l'acte, c'est le seuil minimum, ok, c'est un seuil minimum. Mais c'est évident, comme vous dites, qu'une personne pourrait avoir l'esprit complètement emmoché, par ces questions. Il peut être obsédé de ces questions sans passer à l'acte de coucher avec une autre femme, comme vous dites. Alors, quand j'ai lu le passage de tout à l'heure, que la foi Baha'i prend le contrôle et la réglementation de la pulsion sexuelle, ça veut dire aussi de façon interne. Quand on parle de chasteté, ça veut dire pureté. Ça veut dire pureté de pensée aussi. Et là, je veux revenir à une chose que j'aurais peut-être dû mentionner, mais que je n'ai pas mentionné. Et ça peut, enfin, choquer certaines, mais enfin, voilà. C'est très clair, si on lit les écrits Baha'i, de façon très proche, et je peux vous montrer des passages à ce propos, qu'il est en fait impossible de vivre cette moralité sexuelle sans l'aide de Dieu. Et ça fait partie du dessein de Dieu. C'est-à-dire, c'est seulement dans une relation consciente avec Dieu, en se tournant vers Dieu, que nous avons la force de vivre ça vraiment, comme vous dites, de point de vue intérieur aussi bien qu'extérieur. Et si on laisse aller sa pensée et on arrête juste au niveau de l'action, mais ça, c'est évidemment très, très malsain, n'est-ce pas? Et puis, là, de ce point de vue, il y a très peu de différence, si vous voulez, entre la personne qui passe à l'acte et qui ne passe pas à l'acte. Donc, quand on parle de chasteté et fidélité, on veut dire, évidemment, une certaine hygiène d'esprit aussi, et cette hygiène d'esprit peut se faire seulement dans une relation avec Dieu. Et je pense que ça, c'est une des subtilités de toute cette question sexuelle. Il y a certaines choses de morale que nous... C'est-à-dire, La plupart des gens réussissent à vivre toute une vie sans assassiner quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Donc, il y a des athées, des prophètes athées, enfin, qui arrivent, enfin, des non-croyants, qui arrivent à passer une vie sans commettre le meurtre, n'est-ce pas? Donc, il y a certaines choses qui sont facilement dans la portée d'un être humain, si vous voulez, normal. Okay? Mais vivre cette moralité sexuelle pour une personne normalement douée pendant toute une vie, sans l'aide de Dieu, est vraiment impossible. C'est vraiment impossible et comme je dis, enfin, dans un autre moment, je peux vous montrer des passages dans le roi où ça, à mon avis, c'est assez clair comment. Là. Et ça fait partie du dessein de Dieu, c'est-à-dire, ça fait que aussi vivre notre sexualité, non seulement ça nous rapproche de notre conjoint, mais ça nous rapproche aussi de Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est dans ce dialogue intime avec Dieu que nous apprenons à contrôler et à diriger cette énergie vers la vraie créativité, n'est-ce pas?
Merci.
Je crois qu'on...
Oui, on va donner l'occasion à d'autres.
Oui, parfait. Même si je ne partage pas votre foi, quelques réflexions. J'avais l'impression ce soir, quand on parlerait de lien entre la spiritualité et la sexualité, qu'on ne parlerait pas de règles et de contrôle, mais plutôt des liens qui existent entre les deux. Moi, je pense d'abord que la sexualité humaine, ça n'a rien à voir avec la sexualité animale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est si compliqué,
oui,
et si mystérieux, c'est si relié avec notre esprit. Et d'une part, donc, c'est vrai que c'est une pulsion fondamentale, puis je pense que comme toutes nos pulsions fondamentales, c'est la base de notre équilibre ou de notre déséquilibre. Et les humains, contrairement aux animaux, la déviance sexuelle, ça n'existe pas chez les animaux. Alors, donc, c'est pas un problème de pulsion. Dans le fond, c'est un problème de ce que notre esprit fait de cette pulsion-là, puis de l'équilibre.
C'est ça.
Et je dirais que la recherche, la spiritualité aussi, c'est le développement de l'équilibre. Vous parliez de l'âme, de l'état de l'âme. Et que, dans ce sens-là, le lien entre la spiritualité et la sexualité, c'est pas un lien de règles, c'est un lien de recherche d'équilibre. Ce qui ne veut pas dire que je pense que, effectivement, dans une relation amoureuse, la fidélité est importante, mais elle est importante parce qu'elle fait partie de l'équilibre. Et non pas parce que c'est une règle qu'il faut contrôler. Alors, dans ce sens-là, je partage pas beaucoup. Puis, en plus de ça, la sexualité, c'est pas l'acte sexuel, c'est un moteur... La sexualité, ça existe à partir du moment où on naît. La psychologie nous a appris ça jusqu'à ce qu'on meurt. Ça n'a rien à voir avec les relations sexuelles. C'est quelque chose de très complexe qui influence notre comportement de toutes sortes de façons, parfois correctement, parfois de façon pas correcte. Donc, on doit rechercher une connaissance, un équilibre, et qu'au contraire des règles, c'est d'apprendre à connaître, à vivre cet équilibre-là, à rapprocher justement la sexualité de la sensualité, de la spiritualité qui fait qu'on puisse... D'ailleurs, les religions, assez bizarrement, parce que le contrôle de la sexualité, la chasteté, la pédophilie, ça a commencé avec le contrôle avec la chasteté dans les...
Non, avec le célibat, c'est autre chose. Le célibat, c'est autre chose.
Oui, mais quand on parle... Oui, mais là, j'exagère peut-être, là, mais pour... Oui, c'est ça. Alors, moi, je pense qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec une question de règles autre que la règle d'une recherche, justement, d'équilibre, de bien-être. Et dans ce sens-là, c'est une éducation à ça, et non pas des règles, moi, je pense, en tout cas... Moi, je pense que les raisons fondamentales pour lesquelles, dans une relation amoureuse, la fidélité est importante, mais ça n'a rien à voir avec le mariage ou avant le mariage ou quoi que ce soit de ça. En
tout cas, c'est bon sens, c'est ça que tu veux dire.
Non, pas une question de bon sens, c'est une question de finalement, que la sexualité, c'est quelque chose de tellement profond que quand tu vis une communion avec quelqu'un, mais tu ne vas pas le vivre partout ailleurs. Là. C'est un problème de déséquilibre quand tu fais ça. Là. Et que... c'est pas, moi je dirais que c'est pas de prendre à contrôler et endiguer la sexualité, parce que ça, c'est le même message que l'Église catholique, avec tous les abus que ça a pu donner. C'est plutôt une histoire de lui donner sa vraie place à travers le reste
au contraire, de la lier davantage. Puis ce que j'avais commencé à dire, c'est justement dans les religions orientales, on ne fait pas cette distinction-là entre la sexualité et la spiritualité. Au contraire, beaucoup comme l'hindouisme, le bouddhisme, justement, la sexualité et la spiritualité sont souvent très proches. Puis effectivement, il y a des choses qui les rapprochent. Et moi, je pense que les religions, surtout occidentales, traditionnelles, la raison pour laquelle il y a toujours eu des principes très forts sur la sexualité, c'est que c'est un moteur tellement puissant, tellement mystérieux, que c'était d'abord un besoin de contrôle social puis qui faisait qu'on instaurait ces principes-là. Mais en tout cas, c'est un bon point
de vue.
Merci
beaucoup. C'est comme ça nous donne une certaine force, une force de caractère qui nous amène plus tard à pouvoir être fidèle dans une relation où est-ce que tu es engagé avec quelqu'un. Moi, j'ai vu cette démarche-là. Parce que ça grandit, comme Bill a expliqué tout à l'heure qu'on grandit, on peut faire grandir nos muscles, ben, comme un pianiste aussi va prendre de l'agilité, une certaine force. La certaine force de caractère aussi qu'on prend à vouloir se garder chaste dans une relation fait qu'on va, cette force-là, quand on sera vraiment avec quelqu'un qu'on aime, qu'on fait un engagement, qu'on peut appeler le mariage, cette force-là, l'ayant acquise, ça va nous protéger, nous permettre plus facilement d'avoir cette fidélité. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris dans mon vécu. Et je pense que c'est plus authentique aussi. C'est plus authentique quand on est dans cette période où est-ce qu'on veut connaître le caractère de l'autre et qu'on ne touche pas à la sexualité, que consciemment on sait que c'est ça qu'on veut faire. Tu sais, on va dans un chemin qui est conscient comme ça. On est plus authentique. On n'embarque pas dans ces jeux, puis peut-être pas tout le monde vit ça, mais peut-être aussi qu'on les a tous plus ou moins vécus. C'est les jeux de la séduction ou de différentes choses, où est-ce qu'on ne veut pas vraiment se montrer sur son vrai jour, et l'autre peut-être pas vraiment non plus. Je pense que la relation est plus authentique, et c'est d'ailleurs peut-être pourquoi on découvre beaucoup plus vite ce qu'est l'autre personne. Ses qualités, ses talents, ses capacités, ses défauts, ses faiblesses, et on se découvre aussi. Alors je pense que l'authenticité est beaucoup plus grande quand on développe ou qu'on essaie, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est tous des êtres humains, mais on essaie toujours. Je me dis toujours, l'important c'est d'essayer. Tu retombes, tu recommences, mais tu essaies. Si tu l'as comme idéal, tu vas gagner des choses là-dedans, mais qui vont te servir plus tard dans une relation qui sera stable à l'intérieur d'un mariage.
Je voulais juste répondre à un point très vite. Ça, pour moi, c'est très important. J'espérais que c'était clair de mon exposé, mais peut-être ça ne l'était pas. L'idée de diriger, contrôler la pulsion sexuelle, c'est tout à fait différent que de condamner, de démoniser, etc. Donc, l'attitude bahaï n'est pas du tout comme l'Église catholique. L'Église catholique a culpabilisé la sexualité même, comme vous dites. La foi bahaï ne fait pas ça. Et tout ce que vous avez dit par rapport à la créativité de la sexualité, c'est complètement compatible avec le point de vue que j'ai tâché, enfin, en bien et mal d'exprimer. Alors, mais ça, c'est très important. Ça, c'est, ce qui a fait toutes les perversions dans l'Église catholique, c'était la culpabilisation même de la pulsion du sentiment sexuel. Les gens étaient rendus coupables du fait d'avoir la pulsion sexuelle. Et c'est ça qui dérange les gens, c'est ça qui rend les gens fous, etc., n'est-ce pas? Et ça, c'est pas du tout le point de vue bahaï.